Il est 8h à Paris, 1h de moins en temps universel.
RFI Matin.
Le journal Marion Kazanov avec à la une Israël qui intensifie son opération mur de fer.
Offensive d'envergure menée depuis plus d'un mois en Cisjordanie occupée. RFI est entré dans le camp de déplacés de Jenin, vidé de ses habitants dimanche, où restent quelques Palestiniens au péril de leur vie. La guerre en Ukraine au cœur des discussions entre les présidents français et américains. Emmanuel Macron croit à une trêve dans les prochaines semaines. Karim Khan à Kinshasa en RDC. Le procureur général de la Cour pénale international est arrivé hier dans la capitale congolaise dans le cadre d'une enquête de la CPI sur des crimes commis dans l'Est depuis 2022. On sera en direct de Rome dans ce journal pour l'ouverture de la COP 16 sur la biodiversité. Sa réouverture plutôt, car faute d'accord en novembre en Colombie, les débats reprennent en Italie. Et puis les fidèles catholiques continuent de prier pour le pape François, hospitalisé pour une pneumonie. Ses compatriotes argentins notamment se rassemblaient hier soir pour une messe publique à Buenos Aires.
Les blindés israéliens restent déployés en Cisjordanie occupée, entre des montagnes de gravats.
L'armée israélienne intensifie son opération mur de fer dans le territoire palestinien, en particulier dans le camp de déplacés de Jenin, vidé de ses habitants dimanche. Ce camp est considéré comme l'un des bastions de la lutte armée palestinienne. Israël y a débuté une offensive d'ampleur juste après l'entrée en vigueur de la trêve à Gaza. Notre envoyé spécial Pierre Olivier a pu entrer dans ce camp et y a rencontré de rares Palestiniens.
La rue principale du camp de Jenin n'est plus qu'une énorme flaque de boue. Un bulldozer israélien blindé termine de défoncer la route. À l'intérieur, un soldat nous fait lever de la victoire. Dans le camp désert, nous tombons sur Swahib, 18 ans.
On est retourné à la maison chercher des affaires, des habits, car on est parti sans rien. Mais en sortant, les Israéliens nous ont arrêtés. Et ce matin, un type a été blessé à la main par un sniper. Il est là-bas, dans l'immeuble. Tu vois, si tu approches, tu le vois.
Soudain, l'armée israélienne vient de faire exploser une maison dans le camp. Elle soupçonnait un combattant du djihad islamique d'y habiter. Un peu plus loin, l'une des routes qui mène à Jenin est impraticable.
Hier, les chars sont entrés avec des bulldozers. Ils ont soulevé la route. Les gens leur jetaient des pierres et des cocktails Molotov. L'occupant fait ça pour nous casser le moral. Mais ça ne sert à rien. C'est notre patrie. On restera ici pour toujours.
À côté de la mosquée, Majdal, 15 ans, est en pleine lecture. Elle prête à peine attention aux blindés israéliens.
Depuis 2 mois, nous, les élèves du camp, on ne va plus à l'école. Elle est fermée. Moi, je suis des cours en ligne, mais la majorité des élèves déplacé n'a pas accès à Internet. Mais tout ça, moi, ça motive à continuer les cours pour défendre ma patrie avec le savoir.
Tout à coup, à quelques mètres, un jet d'eau jaillit du sol. L'armée israélienne vient de casser une canalisation. Pierre-Olivier Jenin, RFI.
La Croix-Rouge et l'ONU ont hier partagé leur inquiétude sur la situation en Cisjordanie occupée. De son côté, le groupe djihad islamique accuse Israël de vouloir annexer ce territoire palestinien.
À New York, nouvelle illustration du rapprochement entre les États-Unis et la Russie.
Qui votent ensemble pour la première fois une résolution sur la guerre en Ukraine au Conseil de sécurité de l'ONU. Cette résolution pousse pour une paix rapide, mais ne fait mention d'aucune responsabilité russe ni d'intégrité territoriale de l'Ukraine. David Thompson, cela confirme donc le revirement de Washington depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Les États-Unis et la Russie qui votent ensemble à l'ONU contre les pays européens et l'Ukraine, c'est sans précédent et cela se passe le jour même du 3e anniversaire du début de l'agression russe. À l'Assemblée des Nations Unies, les États-Unis ont d'abord voté contre une résolution des Européens appelant au retrait immédiat des troupes russes du territoire ukrainien. Un peu plus tard, au Conseil de sécurité, les Américains ont ensuite voté avec la Russie en faveur d'une résolution qui omet de qualifier les Russes d'agresseurs et qui ne reconnaît pas l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Cette résolution nous place sur la voie de la paix, assure l'ambassadrice par intérim des États-Unis à l'ONU, Dorothy Shea. Résolution adoptée à 10 voix pour et 5 abstentions, dont la France. Il n'y aura ni paix ni sécurité nulle part si les agressions sont récompensées et si la loi de la jungle l'emporte, regrette l'ambassadeur de France auprès des Nations Unies, Nicolas de Rivière. C'est un moment de vérité, un moment historique, déclare la vice-ministre des Affaires étrangères ukrainienne. Après avoir faussement affirmé que l'Ukraine avait déclenché la guerre et qualifié son président Volodymyr Zelensky de dictateur, il confirme le virage radical de la politique étrangère américaine depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. David Thompson, Miami RFI.
À la Maison-Blanche qui a ressorti le drapeau français à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron.
Drapeau français et américain déployé devant la presse. Chacun à son pupitre, les deux présidents sont apparus presque complices après leur entrevue dans le bureau ovale. Si leurs divergences restent profondes sur le dossier ukrainien, chacun s'est montré ouvert. Emmanuel Macron a même trouvé un point commun entre lui et son homologue.
Il veut la paix. Nous voulons la paix, on est totalement d'accord. Nous voulons un deal rapide, mais pas un accord qui soit fragile. Et le fait qu'il y ait des Européens qui soient prêts à s'engager pour apporter leur réponse à ces garanties de sécurité, et qu'il y ait une clarté maintenant du message américain sur le fait que les États-Unis d'Amérique, comme alliés, étaient prêts à apporter justement un soutien, une solidarité à cette approche, est pour moi un tournant.
Emmanuel Macron évoque ainsi un déploiement éventuel de troupes européennes en Ukraine. Selon Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine accepterait sur place la présence de troupes de maintien de la paix. Emmanuel Macron envisage aussi une trêve dans les prochaines semaines en Ukraine. L'Ukraine où les alertes antiaériennes ont résonné ce matin dans tout le pays. Des missiles se dirigeaient vers la capitale Kiev. La population est appelée à rester dans les abris jusqu'à nouvel ordre.
RFI 8h06 à Kinshasa, le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan est arrivé en RDC.
Il a atterri hier dans la capitale dans le cadre d'une enquête lancée par la CPI sur des crimes commis dans l'est de la RDC depuis le 1er janvier 2022. Il compte s'entretenir avec les autorités congolaises et s'est exprimé dès son arrivée à l'aéroport.
Combien d'enfants vont être sacrifiés ? Trop, c'est trop. Il ne s'agit pas là des larmes des avocats. Ce sont celles des enfants, des femmes et des hommes de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas un problème à prendre à la légère. Trop de gens se sont immiscés dans les affaires de ce pays et ce depuis des années. Des problèmes subsistent en RDC, mais les populations veulent la paix, pas la guerre. Avec toute l'humilité nécessaire, nous tendons la main au gouvernement de la RDC. Nous souhaitons amener le plus de partenaires possible vers une justice solide et durable qui éradiquera le poison de la criminalité du sol congolais et qui permettra à vos enfants d'avoir un futur meilleur après ces jours sombres que vous vivez aujourd'hui. Ce ne sera pas facile. Personne n'a de baguette magique. Si nous travaillons ensemble avec l'idée que ces enfants sont nos enfants, que les familles qui souffrent sont les nôtres, nous ne permettrons pas que cela continue.
Le procureur de la CPI, Karim Khan. Le conflit dans l'est de la RDC a fait 7000 morts depuis le début de l'année. Ce sont les chiffres avancés hier par la première ministre congolaise qui se trouvait hier à Genève au Conseil des droits de l'homme.
À la COP16 sur la biodiversité, on prend les mêmes et on recommence, Marion, mais pas au même endroit.
Le bras de fer reprend 4 mois après les négociations de Cali en Colombie. Les pays participants s'étaient quittés sans accord. Dernière chance donc à Rome, en Italie. Et comme souvent dans les COP, les pays du Sud reprochent aux pays du Nord de ne pas assez mettre la main à la poche. Vous allez suivre ces négociations. Lucille Gerbert, bonjour.
Bonjour.
En direct de Rome, Lucille, le fond de ces désaccords, c'est la création ou non d'un nouveau fonds dédié à la biodiversité.
Oui, c'est une demande ancienne hein, des pays en développement et notamment du groupe Afrique. Ils veulent que ce nouveau fonds soit sous l'autorité de la COP. Leur argument, c'est que l'actuel fonds établi au sein du Fonds mondial pour l'environnement, n'est pas assez transparent. Les pays du Sud n'ont pas assez voix au chapitre dans sa gouvernance et ils ont beaucoup de difficultés à accéder à ces financements. En face, les pays riches qui se sont engagés à débourser 30 milliards par an d'ici 2030 pour la protection de la nature dans les pays en développement et arrivent, eux, avec des restrictions budgétaires, ne veulent pas de ce nouveau fonds et ils plaident pour une réforme des mécanismes existants.
Et Lucille, qu'est-ce qui pourrait débloquer les négociations cette fois ?
Eh bien, la ministre colombienne de l'Environnement, toujours présidente de la COP, a fait une proposition médiane, lancer un processus de travail pour désigner et opérationnaliser un fonds dédié à la biodiversité sous l'égide de la COP d'ici 2030, mais cela pourrait être soit un nouveau fonds, soit un fonds déjà existant. On va voir comment chaque délégation se positionne vis-à-vis de cette proposition lors de la plénière qui doit commencer dans à peine 2 heures. Il faudra notamment regarder le Brésil, explique Agnès Alosri. Elle est chargée des questions de biodiversité à l'Institut du développement durable et des relations internationales.
Le Brésil, quand même, globalement, aujourd'hui, c'est eux les grands gagnants du financement de la biodiversité. Donc, en fait, ils n'ont pas beaucoup aidé dans la discussion à dire, oui, on a besoin de changer le système, que ça redistribue à plus de monde, de mettre plus de monde autour de la table. Finalement, en gros, ça leur va. Donc, ce serait intéressant de voir si ils prennent plus ce rôle d'accompagnateur de compromis avec la présidence colombienne.
parce que le Brésil accueille en fin d'année la COP climat à Belém et que ces enjeux sont liés. Pour Agnès Alossery, après le démantèlement de USAID par Donald Trump, beaucoup de pays du Sud voient disparaître une part importante de l'aide qui leur servait à financer la conservation de la nature sur leur territoire. Ils seront donc peut-être plus enclins à trouver un accord avec les pays du Nord qui participent encore à l'effort collectif pour freiner la destruction de la biodiversité.
Lucille Gimbert en direct de Rome pour le dossier du journal de 8h. On vous retrouve dans nos prochaines éditions pour suivre l'évolution de ces discussions.
8h10 à Paris en France, un accusé, 299 victimes, procès hors norme, le plus important sur une affaire de pédocriminalité.
Et celui de Joël Le Squarnec qui s'est ouvert hier. L'ancien chirurgien est accusé de viol et d'agression sexuelle sur des patients essentiellement mineurs entre 1989 et 2014. Ces victimes ont peu de souvenirs de ces agressions car elles étaient sous anesthésie. Lui décrivait les faits dans des carnets intimes. Joël Le Squarnec a adressé ses premiers mots à la cour hier. « J'ai commis des actes odieux, je dois assumer ma responsabilité », a-t-il dit au tribunal de Vannes. Vannes dans l'ouest de la France où l'on vous retrouve, Baptiste Coulon. La première journée d'audience a donc été marquée par ses premières déclarations et également par une image forte.
Oui, cette image, c'est celle de Joël Le Squarnec, seul dans son box d'accusé. Face à lui, 60 avocats de partie civile qui occupent les trois quarts de la petite salle d'audience. Impossible donc de faire rentrer toutes les victimes. Alors c'est le paradoxe de cette première journée. Joël Le Squarnec leur adresse des remords très pesés, mais ils ne les voient pas. Elles sont à 300 mètres du tribunal, dans un amphithéâtre, devant un écran. Un système qui les invisibilise encore davantage, dénoncent certains avocats. Des victimes dont on pouvait lire l'anxiété sur les visages à l'amorce de l'audience hier.
Et l'audience entre dans le vif du sujet aujourd'hui, Baptiste, avec les auditions de plusieurs membres de la famille de Joël Le Squarnec.
Oui, déjà une étape importante aujourd'hui parce que dans la catégorie des personnes qui peut-être étaient au courant mais n'ont rien dit, les soupçons portent sur certains membres de sa famille et notamment son ex-femme. Elle a toujours dit ne rien savoir, pourtant des éléments interrogent. En 1996, elle se serait confiée à sa sœur, soupçonnant son mari d'avoir une attirance pour les petites filles. En 1996 encore, Joël Le Squarnec écrivait ceci: « Elle sait que je suis pédophile ». Pris de panique, il avait alors détruit deux carnets où il consignait ses crimes.
Baptiste Coulon en direct du tribunal de Vannes dans l'ouest de la France où se poursuit donc aujourd'hui le procès de Joël Le Squarnec. Un autre procès cette fois en Corée du Sud. La dernière audience du procès en destitution du président Yoon Suk-yeol, elle s'est ouverte tout à l'heure devant la Cour constitutionnelle qui devra ensuite trancher pour maintenir ou non le président au pouvoir. Il est jugé pour sa tentative d'imposer sa loi martiale en décembre dernier. Yoon Suk-yeol est aussi jugé parallèlement au pénal pour insurrection. Il risque la prison à vie, voire la peine de mort.
Et puis cela fait maintenant 12 jours que le pape François est hospitalisé pour une pneumonie.
Son état reste critique, disait hier le Vatican, qui notait quand même une légère amélioration pour le souverain pontife, âgé de 88 ans. Son état de santé continue d'inquiéter les catholiques du monde entier qui se réunissent pour prier. Des milliers de fidèles, par exemple, étaient rassemblés hier place Saint-Pierre au Vatican. Ils étaient aussi des centaines à Buenos Aires, en Argentine, là d'où est originaire le pape. Reportage sur place de notre correspondant Théo Conscience.
Cher François, nous sommes avec toi, lance l'archevêque de Buenos Aires, Monseigneur Garcia Cuerva, sous les applaudissements. Malgré la pluie, ils sont nombreux à être venus prier pour la santé du pape François hier.
Comme Argentine, nous ne pouvons faltar hoy.
En tant qu'Argentin, nous ne pouvions pas manquer à l'appel, estime Germán.
Il est
né ici, il a vécu ici jusqu'à son élection en tant que pape en 2013. Nous l'avons eu parmi nous et aujourd'hui, il appartient à tout le monde.
Avant de devenir le pape François, Jorge Bergoglio a longtemps été archevêque de Buenos Aires. Andrela se souvient qu'il venait régulièrement visiter le bidonville du sud de la capitale argentine où elle vit.
C'était une personne simple, proche des gens, presque un voisin. Et quand un voisin est malade, on prie pour lui, on lui apporte quelque chose à manger. Donc aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés pour prier pour sa santé et son rétablissement.
Dans leur prière, beaucoup caressent le même espoir, que François se rétablisse et qu'il ait l'opportunité de revoir au moins une fois le pays qu'il a vu naître et où il n'est plus revenu depuis qu'il est devenu pape.
Vive le pape Francisco!
Conscience, Buenos Aires, RFI.
Et on devrait avoir dans les prochaines minutes des nouvelles du pape François qui est donc hospitalisé à Rome, on le rappelle, depuis 12 jours pour une pneumonie.
Merci Marion Cazanov pour le journal. 8h14 à Paris, reportage dans un instant en Syrie où les minorités restent prudentes après l'arrivée au pouvoir des islamistes. Un témoignage de chrétiens à suivre alors qu'une conférence de dialogue national a débuté en Syrie quelques jours avant la nomination d'un nouveau gouvernement qui, selon les autorités, représentera la diversité du peuple syrien. Mais d'abord, la revue de presse internationale. Avec Frédéric Couteau et à la une, Frédéric, Trump et Macron, amitié et divergence.
Il ne faut pas s'y tromper, derrière les accolades viriles et les poignées de main vigoureuses, le fossé est bien là entre les deux chefs d'État. C'est ce que souligne le New York Times, réuni à l'occasion du troisième anniversaire de l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie. Donald Trump et Emmanuel Macron ont semblé vouloir éviter une rupture ouverte en s'échangeant des compliments lors d'une rencontre plutôt conviviale à la Maison-Blanche, mais ils ont divergé de manière significative sur les causes de la guerre, le rôle de chaque partie dans le conflit et sa possible résolution. Au même moment, souligne le New York Times, les États-Unis et la France s'opposaient vivement aux Nations Unies au sujet d'une résolution condamnant l'agression de la Russie. Alors que l'Europe et la plupart des pays du monde se rangeaient du côté de l'Ukraine, l'administration Trump a dit non à cette résolution aux côtés de la Russie, de la Corée du Nord et de la Biélorussie, plaçant les États-Unis dans un camp où ils se sont rarement, voire jamais, retrouvés au cours de l'histoire des Nations Unies.
Et le Wall Street Journal ne cache pas son dépit.
C'est un triste jour pour les États-Unis à l'ONU. Quel moment regrettable, s'exclame le Wall Street Journal. La résolution parrainée par l'Ukraine et les pays européens n'était même pas très contraignante. Elle se contentait de constater avec inquiétude que l'invasion massive de l'Ukraine par la Fédération de Russie a eu des conséquences dévastatrices durables et appelait à une cessation rapide des hostilités. Apparemment, c'était une réprimande trop sévère pour Vladimir Poutine, pour que le président Trump puisse la tolérer alors qu'il cherche à négocier la fin de la guerre en Ukraine. Les États-Unis avaient soutenu ces résolutions depuis le début de la guerre, mais, soupire encore le Wall Street Journal, ils votent désormais avec les États voyous plutôt qu'avec leurs alliés. Finalement, s'interroge Libération à Paris, où se jouait vraiment l'avenir de la guerre en Ukraine en ce jour du troisième anniversaire de l'invasion russe. À Kiev, où tout le gratin européen et le Premier ministre canadien se sont pressés au chevet de Volodymyr Zelensky, ou bien à Washington avec Emmanuel Macron pour émissaire de son continent afin de tenter de convaincre Donald Trump de ne pas précipiter une paix injuste, suivant les seuls termes et conditions de Vladimir Poutine. Là encore, Libération constate que les présidents américains et français ont affirmé vouloir travailler à une fin prochaine du conflit, surjouant une franche camaraderie qui n'occulte pas leur profonde divergence.
Un résultat, pointe le temps à Genève, Emmanuel Macron repart les mains vides de Washington.
S'appuyant sur sa bonne relation avec Donald Trump, Emmanuel Macron a bien tenté de l'infléchir sur l'Ukraine, en vain donc. Le président américain est obnubilé par l'accès aux minerais stratégiques ukrainiens. Il veut aussi développer des relations économiques avec Moscou et charge aux Européens de surveiller l'application d'un éventuel accord de paix. En effet, précise Le Monde à Paris, la grille de lecture de Trump a semblé limitée à 3 points. Un accord économique avec l'Ukraine, tournant pour l'essentiel autour des ressources minières. Un cessez-le-feu entre belligérants pour mettre fin au bain de sang dont il refuse de rendre Poutine responsable. Enfin, un engagement européen financier et militaire pour assumer la sécurité du continent.
Et après demain jeudi, ce sera au tour du Premier ministre britannique Keir Starmer de se rendre à Washington pour rencontrer Donald Trump.
Comment notre Premier ministre devra-t-il gérer cette situation, s'interroge le Times à Londres. En cherchant à mettre fin à la guerre en Ukraine, en faisant des concessions rapides à la Russie, Trump est en passe de faire une erreur historique. Le lui faire savoir clairement risque de le brusquer. Ne pas le lui faire savoir clairement risque de nous précipiter dans le chaos. Alors, préconise le Times, Keir Starmer pourrait lui rappeler cette phrase de Churchill que Trump dit beaucoup admirer. La croyance selon laquelle la sécurité peut être obtenue en jetant un petit État au loup est une illusion fatale. Phrase prononcée donc par Churchill lors de l'abandon aux nazis de la Tchécoslovaquie en 1938.
Frédéric Couteau pour la revue de presse internationale. C'est une nouvelle étape dans la transition syrienne. Une conférence de dialogue national a été lancée hier soir à Damas. Elle doit se prolonger aujourd'hui avec 6 ateliers de discussion. L'un d'entre eux va concerner la liberté individuelle et les droits de l'homme, puisque les nouvelles autorités syriennes affirment vouloir mener un processus inclusif qui intégrera l'ensemble des communautés du pays. On verra si cette volonté sera respectée dans la formation dans les prochains jours d'un nouveau gouvernement. En tout cas, les autorités s'efforcent de rassurer les minorités kurdes, druzes, alaouites, chrétiennes, syriennes qui ont exprimé des inquiétudes face à l'arrivée au pouvoir des islamistes. Alors que la transition se met en place, les chrétiens notamment alternent aujourd'hui entre signaux rassurants et inquiétudes persistantes. Reportage à Alep de Bertrand Éclair et Guilhem Deltay avec Ahmad Al-Khalaf.
C'est une vieille maison traditionnelle qui porte le nom de l'ex-impératrice autrichienne, Sissi. Avant la guerre, elle accueillait l'un des restaurants les plus huppés d'Alep. Ces beaux jours ont duré jusqu'en 2012, se souvient Georges Najarian, propriétaire des lieux.
Lorsque la guerre a commencé, la ligne de front se trouvait juste à côté. Il y a eu beaucoup de destruction. Nous avons dû fermer le restaurant et mettre le mobilier à l'abri.
Aujourd'hui, Georges Najarian travaille à la réouverture. Retrouver le face d'antan est certainement encore lointain, mais il espère pouvoir reprendre une partie de son activité dans les prochains jours.
Maintenant, tout va bien et on espère que ça s'améliorera encore. Le restaurant est grand, mais on va commencer par rouvrir juste le café. Et si les affaires marchent bien, nous rouvrirons le reste.
Une foi en l'avenir que ne partagent pas tous les chrétiens d'Alep. Rim Shahoud, elle, ne l'a pas.
Il y a des tensions, de nouvelles tensions même, parce que nous n'avons pas de gouvernement. C'est le chaos, le chaos. Honnêtement, si on pouvait partir, on partirait.
Et aux inquiétudes économiques et sécuritaires partagées par l'ensemble des communautés s'ajoutent pour les chrétiens d'autres visant leurs droits.
Maintenant, ce qui nous fait peur, c'est qu'on nous impose le voile, qu'on nous empêche d'être libres. Ou par exemple, qu'on interdise à une fille et un garçon de marcher ensemble. Ça aussi, c'est arrivé, alors ça fait peur.
Des remarques, des pressions dont la fréquence est difficile à quantifier, mais dont tous les chrétiens ont entendu parler depuis la chute du régime Assad. Il s'agit toutefois d'actions de citoyens, pas de consignes des nouvelles autorités, souligne Joseph Tobji, l'archevêque maronite d'Alep.
Sincèrement, on a vu une gentillesse envers les chrétiens. Ils nous ont dit, non, vous êtes un composant essentiel de la patrie, donc n'ayez pas peur. Mais il y a des cas individuels, mais il y en a beaucoup de ça, des cas individuels.
La pression sociale augmente d'autant plus que l'autorité centrale est encore en phase de construction. Et lors de sa rencontre avec le nouveau dirigeant syrien, Ahmed al-Sharaa, Joseph Tobji a plaidé pour une accélération de la transition. Le temps n'est pas de notre côté, analyse l'archevêque, qui craint une augmentation de l'émigration chrétienne. Et la menace pourrait être existentielle pour une communauté qui a déjà vu partir 80% de ses membres durant la guerre. Bertrand Éclair, Ahmed al-Khalaf, Guilhem Deltay, Alep, RFI.
Un reportage à retrouver sur le site internet et l'application Pure Radio de RFI. Plusieurs vagues d'arrestations ces dernières semaines ont tendu l'atmosphère politique en Turquie. Des maires de l'opposition, des représentants du patronat, des journalistes, des militants politiques ont été emprisonnés. Le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, fait l'objet d'une nouvelle procédure judiciaire et le barreau d'Istanbul est également inquiété. À Ankara, on retrouve en direct la correspondante de RFI, Céline Permaniani. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pas un jour ne passe, hein, Céline, sans l'annonce d'une arrestation ou de poursuites judiciaires contre des représentants de l'opposition et de la société civile. Hier encore, c'était le cas d'un maire d'arrondissement de la grande municipalité de Kars au nord-est du pays.
Oui, effectivement. Alors, c'était au tour de Mehmet Alkan, le maire de la petite ville de Kazman, près de la frontière avec l'Arménie, d'être démis de ses fonctions. Il est membre du parti pro-kurde du DEM. Il a pourtant été élu démocratiquement en mars 2024, mais il a été condamné par la justice à 6 ans et 3 mois de prison pour appartenance à une organisation armée et il a été remplacé par un administrateur d'État. Alors, c'est le 12e maire de l'opposition à subir le même sort en moins d'un an. Le pouvoir renoue ainsi avec des pratiques autoritaires qui avaient marqué la fin des années 2010, notamment dans les régions kurdes. Mais les élus ne sont pas les seuls à être inquiétés par la justice, comme vous l'avez mentionné. Les représentants de la plus puissante organisation patronale, la TUSIAD, ont subi les foudres d'Erdogan pour avoir critiqué la dérive autoritaire du pouvoir. Et aussi une trentaine de journalistes, artistes et militants politiques, ils ont été emprisonnés la semaine dernière. Alors, quand on regarde un peu l'ensemble des profils des personnes ciblées, on voit une certaine cohérence. Il s'agit soit des voix critiques de l'effondrement de l'état de droit, soit de personnalités actives sur le dossier kurde.
Et puis, autre exemple, Céline, le barreau d'Istanbul, qui est lui aussi dans le viseur de la justice, alors même que c'est une chambre professionnelle respectée. Donc, pourquoi est-ce qu'elle fait l'objet d'une procédure judiciaire ?
Alors, le barreau fait partie des deux catégories que je viens de citer. C'est une chambre professionnelle qui critique sans relâche l'effondrement de l'état de droit en Turquie, et elle n'hésite pas à le faire également sur la question kurde. C'est la raison pour laquelle une procédure a été lancée le 22 décembre dernier pour propagande terroriste. Le barreau avait en effet réagi à l'assassinat de deux journalistes d'origine kurde par des drones turcs. Nazım Dashtan et Cihan Bilgin couvraient les combats entre les forces pro-turques et les forces pro-kurdes dans le nord-est de la Syrie quand ils ont été abattus. Pour rappel, le pouvoir a relancé le dialogue avec le mouvement kurde à l'automne. Il pourrait même aboutir à la dissolution de l'organisation armée du PKK dans les prochaines semaines. Mais avec toutes ces arrestations, les autorités turques envoient un message clair. La neutralisation du PKK est bien l'unique objectif de la démarche, et un retour à des pratiques plus respectueuses de la démocratie n'est visiblement pas au programme.
Céline Pierre Magnani, correspondante de RFI à Ankara.
RFI Matin.
Une session de rattrapage à Rome pour les 196 pays membres de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. On en parle ce matin dans notre question d'environnement. La COP16 reprend aujourd'hui pour tenter de dénouer le blocage sur les financements pour mettre en œuvre l'accord de Kunming-Montréal, accord qui fixe l'objectif de mobiliser 200 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour arrêter la destruction de la nature. Les pays du Sud souhaitent un fonds dédié à la biodiversité. Ceux du Nord s'opposent à un nouveau fonds. À côté de cela, des mécanismes alternatifs sont imaginés. Bonjour Pauline Glaise.
Bonjour.
Alors parmi les pistes évoquées, les crédits biodiversité, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, c'est un concept récent mais qui gagne du terrain. Ces crédits biodiversité sont censés servir à financer des projets de restauration ou de préservation de la nature. D'un côté, une entité protège la biodiversité, d'un autre, un acteur privé paie et reçoit un crédit ou un certificat. Jean Burcard, directeur du plaidoyer de WWF France, donne un exemple.
On a un projet de protection des forêts. Donc, on veut protéger 15 000 hectares de forêts en France. Donc, une entreprise va payer plusieurs centaines de milliers d'euros pour protéger des hectares de forêts pendant 30 ans. Ça, c'est un crédit biodiversité.
Le prix dépendrait de l'offre, les terres ou les mers à protéger, et de la demande, les entreprises qui souhaitent ou doivent acquérir ces crédits.
Sauf que le concept et l'expression de crédit biodiversité ne font pas l'unanimité.
L'expression est calquée sur les crédits carbone. Des entreprises de secteurs différents et de pays différents peuvent s'en échanger. Mais Sébastien Trière, directeur du centre de réflexion IDRI, jugeait à Cali que cette universalité ne pouvait être transposée à la biodiversité.
Les crédits biodiversité dont on parle, je proposerais de les appeler des certificats d'impact positif pour la biodiversité. Parce que c'est l'idée qu'une entreprise se dise, dans mon rapport de responsabilité sociétale, je veux montrer que j'ai aussi contribué à protéger la biodiversité à l'autre bout du monde. Ça me paraît exact. En revanche, on ne peut pas dire qu'en finançant un projet de restauration de la biodiversité dans la forêt amazonienne, une entreprise basée en France et qui a un impact sur la biodiversité en France peut compenser ça.
Non, parce que protéger des éléphants en Afrique, ça ne remplace pas une espèce de libellule en France, et inversement. Et puis une zone qui vient d'être restaurée n'accueille pas la même biodiversité qu'une forêt séculaire. Alors dans une feuille de route, le panel consultatif international sur les crédits biodiversité estime que la compensation ne peut être que locale et comparable.
Alors si les entreprises ne peuvent pas effacer comptablement leurs impacts négatifs, bien pourquoi est-ce qu'elles dépenseraient de l'argent, Pauline ?
Et c'est une question qui risque de freiner la demande. Elles peuvent le faire parce qu'elles ont intérêt à protéger la nature. 72% des entreprises de la zone euro en dépendent des services écosystémiques. Et puis les obligations réglementaires pourraient les y inciter. Par exemple, une directive européenne est en train de mettre à jour les données extra-financières que les entreprises doivent publier. L'impact sur la biodiversité en fait partie.
Quand ils vont devoir mettre dans une colonne tous les impacts négatifs sur la biodiversité, ils vont probablement avoir envie de mettre en face, dans une autre colonne qui ne viendra pas compenser, des impacts positifs qui peuvent quand même montrer sur le fait qu'ils contribuent à autre chose ailleurs, à l'autre bout du monde.
Mais pour cela, il faudra que ces certificats soient crédibles. L'enjeu est donc d'en assurer l'intégrité. Les crédits carbone ont été entachés de plusieurs scandales. Des ONG craignent donc que ce soit un outil de greenwashing et s'opposent à ces crédits biodiversité.
La question d'environnement, signée Pauline Glaise. Il est presque 8h30 ici à Paris. Restez avec nous sur RFI dans un instant. Le retour de l'actualité africaine.
RFI à Victoria, 103.8 FM.
Le journal en français facile, Adrien Delgrange.
Je vous retrouve tous les jours de la semaine pour un journal d'information internationale.
Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez lentement. Il n'y a pas de mots qui m'échappent et je peux saisir toutes les nouvelles sans faire aucun effort.
10 minutes pour mieux comprendre l'actualité mondiale en français.
Le journal en français facile,
c'est du lundi au vendredi à 16h temps universel sur RFI.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker.
Je vous retrouve deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, dans l'Afroclub, terrain incontournable des musiques afro-urbaines d'Afrique et de ses diasporas. Deux fois plus de groove, une séquence rétro indispensable et en prime, une vidéo des tendances de la semaine à voir sur RFI Musique et tous nos réseaux sociaux.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker. Tous les mardis et jeudis dans Afrique Soir.